RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Valérie Gasse.
Bonsoir Roselyne.
Ensemble, nous recevons Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre
merci
invitation. Alors, l'actualité de la journée, c'est Nicolas Sarkozy qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Big Malion. Alors bien sûr, vous allez nous répondre si on vous pose la question que la justice doit faire son travail.
Absolument.
Donc on va gagner un peu de temps. Mais la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que ces affaires de financement de campagne appartiennent au vieux monde, au passé, et que dans le nouveau monde, il n'y aura plus de dérapage de la sorte ?
Écoutez, moi je rentre pas dans ce type de débat, très sincèrement. Je pense que d'abord, vous l'avez dit, et c'est pas juste une formule, la justice doit faire son travail. Et au-delà de ça, les membres du gouvernement ne sont pas autorisés à commenter telle ou telle décision de justice. Donc,
non, c'est pas une décision de justice. Ce que je vous demande, c'est est-ce que ce problème de financement.
Oui, mais si je vous réponds sur la question
vraiment
du financement de campagne,
oui.
je partirais du principe en vous répondant que c'était avéré. Or, il y a une enquête en cours. Je ne sais pas à l'heure actuelle si c'est avéré. Et nous ne le savons pas. Donc, il faut que la justice fasse son travail et nous verrons ensuite.
Marlène Schiappa, néanmoins, ce qu'on sait, c'est que Nicolas Sarkozy va être renvoyé en correctionnel, qu'il y aura donc un procès, donc un ancien président sur les bancs des accusés. Est-ce que ça ne risque pas de rompre encore un peu plus le lien de confiance entre les Français et les hommes politiques ? On sait que la moralisation de la vie politique, c'est une vraie exigence désormais.
J'en sais rien. Écoutez, honnêtement, moi j'ai passé là 2 heures à l'Assemblée nationale à rendre un hommage à Jacques Chirac et à rendre hommage aux gens qui s'engagent pour l'État, qui s'engagent pour leurs concitoyens. Je rentre d'une semaine à l'Organisation des Nations Unies où j'étais avec le président et beaucoup de chefs d'État.
On va en
pour
parler.
Travailler pour rendre ce monde meilleur, tout simplement. Donc c'est ce qui nous anime tous les jours, et je suis convaincue que c'est ce qui a animé Nicolas Sarkozy quand il était président de la République.
Alors justement, l'hommage à Jacques Chirac, qui a duré 3 jours, donc un hommage populaire, un hommage national également, chacun aura célébré son Jacques Chirac, les Français et la classe politique aussi, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre. Vous étiez aux obsèques de l'ancien président. Premièrement, vous qui êtes jeune, qu'est-ce que représentait Jacques Chirac pour vous ?
Mais c'est vrai qu'on est dans cette période où chacun raconte un peu son anecdote avec Jacques Chirac. Moi, je n'ai pas fait partie des gens qui ont travaillé ou qui se sont engagés avec Jacques Chirac. Je ne l'ai rencontré qu'une fois. J'étais toute petite, il était maire de Paris et j'étais une écolière du 19e arrondissement. Et on avait eu la chance avec ma classe de faire une visite de la mairie de Paris. Et à l'époque, c'était très important pour nous de rencontrer le maire de Paris, Jacques Chirac. On en était très fiers. Donc moi, c'est le souvenir de ma rencontre avec Jacques Chirac qui aura été éphémère et ancienne.
Un bon souvenir. Donc, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas quelque chose à tirer de Jacques Chirac ? On a beaucoup, ces derniers jours, salué son humanité, son empathie, son lien de proximité avec les Français. Est-ce que c'est pas un exemple qu'il doit suivre ?
Moi, j'ai le sentiment que le président Emmanuel Macron, contrairement au portrait qu'on en fait parfois ici ou là, est dans l'exercice de son mandat présidentiel quelqu'un qui a une approche très humble et qui tire effectivement des leçons de ce qu'ont pu faire ou ne pas faire ses prédécesseurs. Je crois que c'est la raison pour laquelle il rencontre aussi régulièrement ceux qui ont été présidents de la République. Et je pense qu'effectivement, de tous les présidents de la République, il y a des leçons à tirer, des choses dont s'inspirer. Mais moi, à titre personnel, la leçon politique que je retiendrai et la leçon d'humanité, tout simplement, de ces derniers jours, c'est peut-être plus celle de Claude Chirac. Parce que j'ai trouvé, en tant que simple citoyenne et observatrice, j'ai trouvé son comportement absolument admirable. Le fait qu'elle aille remercier toutes les personnes qui sont là pour assurer la sécurité, qu'elle aille saluer les gens qui font la queue aux Invalides, j'ai trouvé que voilà, c'est quelque chose qui est de nature un peu à rendre ses lettres de noblesse à la politique et à ce qu'elle représente, elle aussi, dans le parcours du président.
Donc le chiracisme peut vivre à travers sa fille.
Ce n'est pas à moi de le dire, je ne prétends pas être une donneuse de leçons de chiracisme, loin de là, mais voilà, simplement, en tant que responsable politique et en tant que citoyenne, j'ai pas mal d'admiration pour ce que fait Claude Chirac dans ce moment qui doit être pour elle absolument bouleversant personnellement, on l'imagine.
Valérie.
Oui, l'actualité du jour, Marlène Schiappa, c'est aussi cet incendie qui a frappé une usine, Lubrizol, à Rouen et qui provoque beaucoup d'inquiétude dans la population. Les gens ont l'impression qu'on leur cache la vérité. Aujourd'hui, le préfet a pris la parole, a essayé de lever les doutes sur ce qui avait été toxique ou pas toxique. Est-ce qu'il n'y a pas eu malgré tout une erreur de communication et un peu une sous-estimation de la situation ?
Je sais pas, écoutez, en termes de calendrier, ça s'est passé dans un moment difficile, puisqu'il y a eu les événements se sont télescopés, si je peux le dire de cette manière un peu raccourcie, avec effectivement le décès du président Jacques Chirac. Et donc, c'est aux informations le décès du président Jacques Chirac qui a pris le dessus. Et donc, on a peut-être moins parlé dans un premier temps de ce phénomène-là, ce qui a pu donner le sentiment que quelque chose était caché. Maintenant, rien ne sera caché. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé, toute la lumière sera faite sur la réalité de la pollution qui est produite par ce phénomène-là. Et ce sera d'ailleurs, la liste des composants sera publiée, il l'a dit lui-même tout à l'heure, dans quelques heures ou quelques jours.
Comme l'a dit un tweetos inspiré, l'usine brûle et on regarde Chirac. Voilà, c'était pour.
Je ne fais pas les lignes éditoriales des uns et des autres, mais
par rapport à sa phrase,
je comprends. J'avais compris la maison brûle, mais je comprends tout à fait l'inquiétude de toutes les personnes qui voient cette fumée noire, cette pluie noire, cette eau.
Il y a eu un petit problème au démarrage quand même pour prévenir les gens, tout simplement, de ce qui se passait.
Écoutez, honnêtement, je ne sais pas, je n'étais pas sur place, mais je pense que là, maintenant, tout le monde est mobilisé. Il y a eu, je crois, quatre ministres, Elisabeth Borne, Agnès Buzyn, Didier Guillaume, le Premier ministre lui-même, Jean-Michel Blanquer. Donc, je crois que tout le gouvernement est mobilisé pour, un, faire la lumière et, deux, surtout assurer la sécurité sanitaire et environnementale
et
de chacun.
Les habitants. Le texte de loi sur la PMA a été voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Un texte qui provoque des inquiétudes, des remous chez certains Français, bien évidemment, et surtout chez les religieux. Je vous propose d'écouter ce que disait ce matin l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, qui d'ailleurs a dit la messe pour le président Chirac. On l'écoute.
On est en train de remettre en cause la filiation naturelle. Parce que l'intérêt supérieur de l'enfant ne doit pas être premier. Pourquoi on a un enfant? On n'a pas un enfant pour soi. Un enfant n'est pas là pour combler les frustrations des adultes. C'est l'enfant qui doit être premier. C'est lui qui doit être, c'est lui qui peut connaître un jour des difficultés.
Marlène Schiappa, que répondez-vous à cela?
Mais personne ne dit le contraire. Personne ne parle de droit à l'enfant dans ce débat. Si vous avez écouté attentivement les débats, et je trouve qu'ils étaient de très grande qualité, et je le dis d'autant plus que je n'y ai pas pris part directement, mais je crois qu'à la fois les parlementaires qui se sont engagés et les ministres qui ont défendu le texte ont permis d'avoir un débat long et dans un climat assez calme et assez pacifié sur la question de ce que doit être la filiation. Et à aucun moment, personne n'a défendu sur les bancs du gouvernement la question du droit à l'enfant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de permettre aux femmes qui, avant, pardon de le dire comme ça, mais bricolaient et faisaient comme elles pouvaient pour tomber enceinte. Il s'agit de leur permettre de le faire dans un cadre sanitaire, sécurisé et qui soit bien à la fois pour elles et pour l'enfant qui va naître.
Justement, suivant ces arguments-là, pourquoi le gouvernement est opposé à la PMA post-mortem? Pourquoi ne pas donner aux femmes dont le mari est décédé la même possibilité qu'aux couples de femmes ou aux femmes seules? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? L'amendement sur la PMA post-mortem a été rejeté, il n'était pas soutenu par le gouvernement.
Je crois qu'en fait, sur la question des révisions de la loi bioéthique, dans lesquelles il y a la PMA, mais pas uniquement, il y a aussi question de recherche sur l'embryon et autres, je pense qu'on est aux confins de plein de débats à la fois très personnels, très intimes, qui touchent au couple, à la sexualité, à la famille, mais aussi quasiment philosophiques sur le progrès scientifique. Et est-ce que tout progrès scientifique est forcément un progrès sociétal? Je ne le crois pas. Donc je crois qu'à cet égard, la PMA post-mortem, elle va
mais là,
peut-être
on est dans,
un peu loin.
Madame
sur,
Marlène
sur
Chappé, là, on est dans le sociétal, puisque le fait de dire qu'on peut étendre la PMA à toutes les femmes, ça veut dire, ça pose la question que posait Roselyne tout à l'heure, sur l'absence de père. L'absence de père dans le cadre de la PMA post-mortem, un couple pouvait avoir un projet d'enfant avant le décès du père. Ça paraît
je pense
contradictoire.
Que là, derrière,
on peut avoir on peut avoir comme père un inconnu et pas avoir comme père son
c'est ce qui a été. Vous me posez la question, je ne suis pas parlementaire, mais c'est
bien
ce qui
sûr.
A été voté par
et
les
vous avez
parlementaires.
Peut-être un avis personnel
et,
aussi.
Bien sûr, mais la question des révisions de la loi bioéthique, ce sont des questions extrêmement sensibles qui se font au niveau du Parlement. Et quel que soit l'avis du gouvernement, le mot final dans la démocratie revient aux parlementaires. Et là, les parlementaires n'ont pas voté cette disposition en première lecture. Il y aura une deuxième lecture, donc nous verrons si c'est toujours voté ou pas. Mais je crois que le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi d'encadrer les avancées scientifiques et de dire ce qui est souhaitable ou non dans ce cadre. Et là, c'est le cas.
Alors, l'un des arguments, c'était de dire, parce que la société évolue, la sexualité évolue, la liberté sexuelle est différente d'il y a quelques années. Donc, la vie évolue dans ce sens-là. Donc, l'argument, c'était de dire, dans le fond, les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, d'homosexuels notamment, allaient à l'étranger. Mais par exemple, la GPA, la gestation pour autrui, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire que des couples achètent un ventre pour 300 000 dollars. Est-ce que, in fine, un jour, on ne va pas vers ça?
Alors sur la PMA,
parce que là aussi c'est le même argument.
Bien sûr, j'entends tout à fait, mais sur la PMA, ça n'était pas ça l'argument de départ. L'argument de base, c'est de constater qu'il y avait une discrimination parce que la PMA existait déjà en France. La GPA n'existe pas en France. La PMA existait déjà, mais elle était ouverte uniquement aux femmes hétérosexuelles mariées. Et donc il y avait là une discrimination, c'est ce qu'un certain nombre d'organisations internationales ont estimé. Et donc pour mettre fin à cette discrimination entre femmes homosexuelles et femmes hétérosexuelles ou femmes mariées, femmes non mariées, nous avons ouvert la PMA à toutes. Mais la GPA est interdite en France, elle le restera. Je crois que dans la GPA, il y a un risque de marchandisation, comme vous l'avez très bien expliqué à l'instant, du corps des femmes, tout simplement, avec des femmes qui seraient moins fortunées et qui mettraient au monde des bébés au service de femmes plus riches. Et je crois que cela, ce n'est pas le modèle de société que nous voulons pour la France.
Alors, on va parler d'un dossier qui vous passionne, puisqu'au fronton de sa diplomatie, Emmanuel Macron donne une grande place à une diplomatie féministe. Alors c'est quoi? C'est un concept qui est venu de Suède et c'est vous qui portez ce combat pour la France. Vous nous disiez que vous étiez aux Nations Unies. Expliquez-nous ce qu'est la diplomatie, concrètement la diplomatie féministe. En quoi elle consiste?
La France a décidé de défendre les droits des femmes partout dans le monde. L'égalité femmes-hommes, c'est la grande cause nationale du quinquennat du président Emmanuel Macron, mais à l'ONU, il y a un an, il a appelé à en faire une grande cause mondiale. Et en un an, ça s'est traduit très concrètement. Par exemple, avec la présidence française du G7, le président a obtenu que tous les pays du G7 signent le partenariat de Biarritz et s'engagent à implémenter dans l'année au moins une loi qui fasse évoluer la situation des femmes dans leur pays. Et au-delà de ça, avec les Nations Unies, nous allons accueillir en juillet 2020 un forum annuel mondial qui a lieu tous les 25 ans. La dernière fois, c'était à Pékin il y a 25 ans. Il aura lieu maintenant à Paris et il s'appelle Génération Égalité. Ce sera le rendez-vous mondial de tous les chefs d'État, de tous les gouvernements, mais aussi des ONG, des activistes, pour faire progresser l'égalité femmes-hommes.
Justement, sur ces progrès, il y a une volonté du président Macron, il en a parlé aux Nations Unies, c'est l'encadrement juridique des féminicides. Oui. Sur cette question précisément, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce que combien de pays vous suivent? Et dans ce combat, est-ce que la présence de Brigitte Macron à vos côtés, elle était à New York avec vous en marge des Nations Unies, est-ce que c'est un atout et quel rôle elle va jouer?
Oui, dans l'ordre, d'abord sur la question de donner un cadre juridique aux féminicides, je crois que c'est primordial. En France, il existe le meurtre par conjoint, qui est une circonstance aggravante. Pas encore le féminicide en tant que tel, mais c'est déjà une circonstance aggravante. Il y a des pays dans lesquels ce n'est pas le cas dans le monde. Et donc le président, ce faisant, appelle à adopter des standards minimums. C'est d'ailleurs le combat qu'on mène pour la ratification mondiale de la Convention d'Istanbul, qui est une convention européenne qui définit des standards de protection des femmes face aux violences. Brigitte Macron était effectivement là, elle est venue par surprise saluer les membres du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes du G7 au consulat de New York.
Vous étiez peut-être un petit peu au courant quand même.
Oui, c'était une surprise pour les membres.
C'est une demi-surprise.
Pour les membres du Conseil consultatif, qui sont des activistes de tous les pays. C'est co-présidé par deux prix Nobel de la paix, Nadia Mourad, la femme yézidi qui s'est libérée de Daesh, où elle était esclave sexuelle, et Denis Mukwege, qui est connu sous le nom de l'homme qui répare les femmes au Congo. Et bien sûr, le rôle de Brigitte Macron dans la diplomatie est très important, parce que vous savez que le rôle des premières dames au niveau mondial est un rôle crucial.
Vous parlez de ce médecin qui répare les femmes, parce qu'il y a les violences, bien sûr, faites aux femmes partout dans le monde. C'est vaste, c'est immense, un immense défi. Mais est-ce que vous avez des priorités, comme par exemple les mutilations sexuelles? Je sais que vous êtes allé au Burkina Faso il y a quelques mois, pour justement, parce que au Burkina, c'est interdit par la loi. Mais c'est pas le cas de d'autres pays d'Afrique. Comment se fait le travail là pour
absolument.
Expliquer
Il y a des pays, vous avez tout à fait raison, il y a des pays qui sont en train de faire leur mue en fait, et c'est le cas du Burkina Faso depuis quelques années, sous l'impulsion du président et du gouvernement qui a interdit les mutilations génitales. Et d'ailleurs, les premières dames et les femmes de ministres au Burkina ont fait une coalition ensemble pour défendre le droit des femmes à ne pas subir de mutilations sexuelles. Donc j'y suis allée pour soutenir le travail des ONG sur place, UNICEF et d'autres, qui vont dans les villages et avec les chefs coutumiers, les chefs religieux, enterrent les instruments qui servent à exciser et plantent un arbre dessus pour qu'on ne puisse pas les déterrer et font ce travail de plaidoyer, de pédagogie pour expliquer tout ce que créent les mutilations sexuelles génitales. Parce que les gens qui procèdent à des excisions sur des petites filles parfois croient bien faire quand on ne leur a pas expliqué ce que ça pouvait procéder. Et la France mène un combat pour avoir une forme d'universalisation des droits des femmes et dire qu'aucune coutume, nulle part, jamais, ne justifie d'exciser ou de mutiler les petites filles et les femmes.
On va parler d'un mot de ce qui s'est passé samedi, la convention de la droite. Éric Zemmour, Le polémiste a eu des propos qui ont choqué sur l'islam, le grand remplacement. Il a parlé d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique. Un discours qui a été diffusé sur une chaîne d'information continue, qui d'ailleurs s'en est un peu excusé. Comment vous regardez ça? C'est pas un historien, c'est pas un homme politique, c'est un journaliste. Comment expliquer ce qu'il faisait là et entendre ce qu'il...
D'abord, moi, j'ai beaucoup de respect pour le métier de journaliste que j'ai brièvement et modestement exercé à mon échelle. Mais je pense vraiment que le rôle des journalistes est fondamental et je pense que face à l'extrême droite, les journalistes peuvent être un rempart. Et quand je vois, par exemple, la réaction de la Société des journalistes de LCI ou la réaction de la Société des journalistes du Figaro, qui toutes les deux ont courageusement pris position pour dénoncer les discours de haine qui avaient été proférés et s'insurger contre cela, je me dis que notre pays doit avoir confiance dans ses journalistes et que vraiment, les journalistes peuvent être un rempart face à la haine.
Donc pas laisser s'exprimer.
Est-ce que vous ne regrettez Valérie. Pas de...
Non, je ne dis pas de pas laisser. Pardon, je dis pas de pas laisser
mais
s'exprimer.
Pas diffuser.
Parce que
ses
je
propos,
pense, ouais. Je pense qu'il attendait le tweet indigné, la plainte du gouvernement, etc.
Mais c'est pour ça qu'il n'est pas réagi. Vous ne regrettez pas de ne pas lui avoir porté la contradiction à cette convention où vous aviez peut-être été invité ou envisagé d'aller, vous n'avez refusé. D'autant que le débat sur l'immigration va s'ouvrir. Le président de la République a dit qu'il faut regarder l'immigration en face et apporter une autre réponse que celle de l'extrême droite. Est-ce que c'était pas le moment de...
Moi, je pense que le fait que, par exemple, Raphaël Intoven, qui est un grand philosophe et orateur y soit allé est très positif. Moi, je ne suis pas, moi, Marlène Schiappa, je ne suis pas une personnalité, je suis membre du gouvernement.
Justement.
Aller en tant que membre du gouvernement à un tel événement, c'est donner du crédit à un tel événement. Et moi, mon souhait, c'était de ne pas apporter le sceau du gouvernement et de ne pas donner du crédit à un événement tel que celui-là. Mais moi, je suis hallucinée, si vous voulez, je suis proprement hallucinée de voir l'écho médiatique qui a été donné à ce qui est quand même une réunion de gens d'extrême droite qui, entre eux, se gargarisent du fait qu'il faut détester qui les homosexuels, qui les femmes, qui les immigrés, dans des propos qui ont choqué jusqu'au parquet, manifestement.
Oui, il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte contre... voilà.
Absolument, mais moi je me suis bien gardée à la fois d'y aller et à la fois de réagir sur ces propos immédiatement, parce que je pense qu'ils n'attendaient qu'une chose, ils n'attendaient qu'une indignation pour dire ensuite qu'ils ne peuvent plus rien dire.
Mais faut pas entrer sur le terrain républicain et intellectuel.
Mais c'est ce que je fais tout le temps. J'ai publié un livre sur la République qui s'appelle « Une et indivisible pour lutter contre le communautarisme ». J'ai publié un livre sur la laïcité qui s'appelle « Laïcité point ». J'ai débattu avec Éric Zemmour à de nombreuses reprises, mais quand on débat, ce n'est pas l'adversaire qui choisit les armes et ce n'est pas l'adversaire qui choisit le lieu. Débattre dans un lieu neutre, dans un média, c'est une chose, mais aller débattre sur le terrain, dans l'événement organisé et mis en scène par l'extrême droite, c'est une ligne rouge pour moi.
Merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir accepté notre invitation sur France 24 RFI. Merci beaucoup Valérie Gasse et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite.